Heureusement, la Côte d'Azur est maintenant protégée et l'on peut profiter de sa variété de reliefs et de paysages. Le bleu azur de la mer qui se perd dans le rouge de l'Estérelle, les montagnes qui achèvent leur course dans de vastes plaines, les criques qui succèdent aux plages de galets, les villes art déco luxueuses qui affrontent d'authentiques villages médiévaux. Alors oui, pour découvrir la Côte d'Azur, il faut savoir s'éloigner un peu de la plage et partir à la découverte de ces villes mythiques et de son arrière-pays. Et comme moi, vous tomberez sans doute sous le charme de la Côte d'Azur. Rhétorique. Qu'est-ce que la Côte d'Azur? Qu'est-ce que la Côte d'Azur? Eh oui, qu'appelle-t-on exactement la Côte d'Azur? Ça peut paraître surprenant, mais il n'y a pas de réponse évidente. Deux définitions s'affrontent. D'un côté, une définition stricte de la Côte d'Azur, limitée à la côte, c'est-à-dire le bord de mer situé entre Nice et Menton. Mais dans ce cas, quid de l'arrière-pays? Quid du massif des Maures et des gorges du Verdon? Donc, il y a une autre définition, plus large, qui dit que la Côte d'Azur couvre les départements du Var et des Alpes-Maritimes, plus la principauté de Monaco. Dans cette définition, la Côte d'Azur va de l'Italie à la ville d'Hyères. Évidemment, personne n'est d'accord. Et les controverses vont bon train. Il faut dire que si la délimitation de la région pose autant de problèmes, c'est que derrière l'expression, il y a de gros enjeux économiques. Pour les hôtels et les restaurants, être ou ne pas être sur la Côte d'Azur, telle est la question. Mais pourquoi n'a-t-on pas défini une bonne fois pour toutes les limites de la Côte d'Azur? Tout simplement parce qu'elle n'existe pas. L'expression « Côte d'Azur » vient d'un certain Stéphane Liégard, qui en 1887 a publié un livre sur la région intitulé simplement « Côte d'Azur ». C'est donc lui qui, sans le savoir, a inventé l'expression « l'azur » faisant bien sûr référence au bleu du ciel et au bleu de la mer. Mais point de définition géographique dans son livre. Et la Riviera dans tout ça? Eh bien, la Riviera ou French Riviera, ce n'est ni plus ni moins que le nom anglais de la Côte d'Azur. Et ses frontières sont tout aussi floues. Mais bon, finalement, les limites de la Côte d'Azur, on s'en moque. Le soleil, la mer et les paysages de montagne ne connaissent pas de frontières. Alors, ne nous arrêtons pas à ces querelles sémantiques et profitons de la région, quel que soit son nom. Architecture. Les villages perchés. La Côte d'Azur, vous l'avez compris, ce n'est pas que la côte et ses plages, mais aussi l'arrière-pays avec son paysage escarpé, presque déchiqueté, où les petites routes serpentent dans les collines et les petites montagnes. L'occasion de découvrir une autre facette de la Côte d'Azur, celle des petits villages perchés, accrochés à la roche. Certains de ces villages sont presque aussi célèbres que les grandes capitales du bord de mer, comme Nice ou Saint-Tropez. Je fais bien sûr allusion à Saint-Paul-de-Vence, à Ramatuelle, à Aise ou à Payon. Tous ces petits villages ont la même histoire, une histoire qui remonte en général au Moyen-Âge. À cette époque, les habitants de la région craignent les invasions par la mer. Ils ont peur des pirates et des barbares, et ils préfèrent fuir la côte pour se réfugier dans les hauteurs. Mais pas facile de vivre dans des endroits aussi arides. Le terrain est pentu et l'ennemi n'est jamais très loin. L'architecture des villages perchés reflète cette réalité géographique et historique. Ils sont entourés de remparts et dominés par un château qui monte la garde. Pour entrer dans le village, il faut passer par des portes étroites, ce qui permettait aux habitants de se défendre plus facilement en cas d'attaque. Avec des terrains aussi accidentés, il y a très peu d'espace pour le village. C'est pour ça que dans les villages perchés, toutes les maisons sont construites en hauteur. Elles sont très hautes et très serrées. Ces maisons forment carrément un deuxième mur d'enceinte, au cas où. Quant aux villages, ils sont tous un peu construits sur le même modèle. Des rues étroites et pavées, très sinueuses, parfois traversées par des arcades. Au centre du village, il y a toujours l'église qui constitue le lieu de rassemblement des villageois. Et vous verrez aussi de nombreuses fontaines. Les fontaines avaient un rôle fondamental, puisque souvent c'était les seules sources d'eau du village. D'ailleurs, elles sont souvent très décorées, ce qui montre bien l'importance et le respect qu'on leur accordait. La plupart des villages perchés sont extrêmement bien restaurés et très agréables à visiter. D'ailleurs, les touristes ne s'y sont pas trompés et les remparts ne